Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
On va ouvrir notre Bible et nous allons faire une première lecture dans le livre de l'Ecclésiaste, livre de l'Ecclésiaste. Et je vous propose que nous lisions simplement ce verset, il est très court, il va nous situer dans notre réflexion. Alors, chapitre 11 du livre de l'Ecclésiaste et verset 1er. Alors voilà ce que nous avons sous les yeux et nous lisons ceci. « Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. » Je vais relire. « Jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps, tu le retrouveras. » Dans ce qui va suivre, puisque nous allons aborder une autre lecture dans un autre texte, je voudrais simplement dire qu'il y a là et que nous sommes confrontés avec un principe biblique et au-delà du principe biblique, à véritablement ce qui permet à Dieu d'apporter la bénédiction et de donner l'abondance. Alors c'est vrai que lorsque ce petit texte est isolé, on se dit « mais jette ton pain à la surface des eaux, vous savez comment ça se passe. S'il y a un tant soit peu de courant, ce que vous avez jeté à la rivière ou au fleuve va disparaître, il va être emporté. » Et quand il s'agit du pain, c'est quelque chose de précieux, parce que le pain, c'est ce qui nourrit l'homme. Le pain, c'est la subsistance, finalement, qui entretient la vie. Et jeter son pain, c'est quelque chose d'important. C'est un geste qui n'est pas sans conséquence, parce que, en quelque sorte, c'est le donner. Le donner à qui ? Quand ça tombe dans une rivière, c'est peut-être pour nourrir les poissons. Mais il y a une idée beaucoup plus profonde, et qui va nous inspirer, et qui va être en quelque sorte le fil conducteur de notre méditation ce soir, parce que, figurez-vous, il y a naturellement derrière ce geste d'abandonner, donc il n'est plus pour nous. On ne va pas aller le rechercher, c'est pas possible. Il est emporté très loin de nous. Pour qui sera-t-il ce pain? On ne sait pas. Mais il y aura toujours quelqu'un qui va le récupérer, d'une manière ou d'une autre. Parce que finalement, dans la suite de ces premières paroles, c'est une promesse de Dieu. Puisque les choses ont été faites ainsi, elles ont été abandonnées à la rivière, au courant de l'eau, Dieu nous dit, avec le temps, dans combien de temps, peu importe, mais avec le temps, il faut que tu saches que ce que tu as donné, ce que tu as abandonné, ce que tu as livré au courant, qui a emporté, ton geste, Dieu nous fait la promesse que nous allons le retrouver. Et pourtant, ça semble précisément le contraire, puisque ce qui a été donné est donné, on ne le revoit plus, on ne le retrouve plus. Alors, je le rappelle, c'est un principe de bénédiction et d'abondance. Ce principe, nous l'avons dans ces livres anciens de la loi de Moïse, on peut parler là dans ces livres, des livres poétiques de la Bible. Mais une chose qui est certaine, c'est que c'est précisément ce que Jésus a enseigné. Vous vous souvenez de cette pauvre femme veuve qui rentre dans le temple alors qu'il y a probablement affluence, et que Jésus est là auprès d'un des piliers du temple et il observe. Il observe des gens qui rentrent, des gens certainement avec des moyens, les habitués du temple qui sont riches, en tous les cas qui ont les moyens. Alors il déverse dans le tronc du temple des poignées de pièces de monnaie. Espèces sonnantes et trébuchantes, on les entend. Alors, voilà, il y a un geste, c'est abandonné pour Dieu. Et puis il y a une pauvre femme qui rentre, et il est précisé que c'est une veuve, donc elle est sans ressources, sans soutien, aucun. Elle tient dans sa main deux pièces, deux petites pièces, qui aujourd'hui vaudraient quelques centimes d'euros. Alors on va pas loin avec un ou deux centimes d'euros, imaginez, hein, au prix où est la vie de notre temps. Et elle va déposer derrière ses généreux donateurs, elle va déposer ces deux pièces, non pas une, avec ce réflexe de dire, eh bien, j'en donne une pour Dieu et j'en garde une pour moi, parce que ce soir, j'aurai besoin de pain pour manger, pour passer la nuit, parce que autrement je vais mourir. Non, elle abandonne tout. Elle jette à la surface des eaux, elle abandonne tout. Et Jésus nous fait cette réflexion, et il nous dit que cette femme a donné plus que les autres. Oui, elle a été au-delà, parce que les autres ont donné de leur superflu, ça ne les gênait pas de donner une poignée de pièces de monnaie du temps, mais elle, il ne lui restait plus rien. Et c'était sa vie qui était en jeu. Parce qu'on sait très bien que quand il n'y a pas de pain, eh bien, on ne vit pas. On meurt de faim. Et j'aimerais peut-être, en complétant cette introduction, vous parler d'une histoire que vous connaissez, vous l'avez déjà entendue, mais c'est bien justement de pouvoir finalement, eh bien, relier les textes ensemble pour que l'image prenne véritablement forme dans nos cœurs et cela nous amène à fortifier notre foi. Et ce message que nous pouvons intituler ce soir « Avoir faim à Sarepta ». Connaissez Sarepta ? Ça vous rappelle quelque chose ?« Avoir faim à Sarepta », c'est toute une affaire. Alors on va aller faire maintenant un petit tour, on va tourner les pages de notre Bible, on va revenir en arrière, pardon, on va revenir en arrière, et puis moi je vous propose que nous fassions maintenant ce complément de lecture sur lequel, eh bien, nous allons apporter notre réflexion, porter notre méditation dans le livre des Rois, un roi, premier livre des Rois, chapitre 17. Et vous allez voir que il y a aussi l'histoire d'une veuve, autre que celle de l'Évangile. Et cette veuve, eh bien, elle a fait comme celle qui est remarquée par Jésus, elle a tout donné aussi. Et vous savez, quand on donne tout, c'est pas une démarche intellectuelle, cérébrale. Ce n'est pas une démarche d'intérêt en disant « si je donne, je vais recevoir ». C'est pas ça. C'est tout simplement, eh bien, la générosité complète et totale. Et si ce n'est pas vu sur la terre, en tous les cas, il y en a un dans le ciel, dont les yeux parcourent finalement, eh bien, la vie des hommes. Et partout dans le monde, en tous les cas, Dieu voit les dispositions et les motivations de notre cœur. Lisons 1 Roi chapitre 17, verset 1er. On commence par l'histoire d'Élie. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici. » Dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent que j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. On continue. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Lève-toi et va à Sarepta, qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et lui dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour toi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord, avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et ton fils, car ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Voilà. Vous savez que c'est une histoire qui a retenu l'attention de Jésus. Parce que dans l'Évangile, à un moment tout à fait particulier, au commencement du ministère de Jésus, Jésus fera mention de l'histoire de cette femme qui était une étrangère au peuple d'Israël et qui était une veuve. Donc, ça s'est perpétué, cette histoire, et finalement, eh bien, c'est venu jusqu'à nous. La mémoire de ce qu'elle a fait, eh bien, est restée, et je crois que c'est plein d'enseignements. D'abord, je remets le contexte. Il y a le prophète Élie, grand prophète s'il en est, comme on dit, devant l'Éternel. Et nous voyons que Dieu va lui parler à ce prophète. Et nous voyons que Élie courageusement va aller voir le roi, un roi épouvantable, un roi impie qui s'appelle Achab. Et il va parler à ce roi au nom de Dieu. Et il dira l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël. Et il rappellera au roi d'Israël qui avait oublié depuis bien longtemps qu'il y avait un Dieu dans son pays. Et il lui dira, moi je suis le serviteur. Et il va prononcer une parole terrible, le prophète. C'est pas une idée qui lui est venue par la tête, c'est que Dieu lui a dit, maintenant tu iras dire au roi d'Israël, eh bien, qu'il n'y aura ces années-ci, dans le temps dans lequel vous allez entrer, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Nous voyons qu'Élie va parler avec l'autorité de Dieu, et cette autorité dont il est revêtu, eh bien, fermera les cieux, et à un moment donné, Dieu lui reparlera pour tout à nouveau que la pluie tombe et que la vie revienne dans ce pays qui est sous le coup, on peut le dire, d'une terrible sécheresse, une terrible famine, non pas le fruit du hasard, mais la conséquence d'un abandon du peuple élu, du peuple d'Israël, de l'abandon de son Dieu. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et quand il n'y a pas de rosée, quand il n'y a pas de pluie, eh bien à ce moment-là, la terre est desséchée, il n'y a plus aucune culture, il n'y a plus aucune récolte, il n'y a plus de pain, il n'y a plus rien à manger, il n'y a plus rien à boire. Mais Dieu va prendre soin d'Élie son prophète. Et tout à nouveau, Élie va recevoir en ses mots, eh bien cet ordre de Dieu. Dieu va lui dire, tu vas partir d'ici. Tu vas te diriger vers l'Orient, là où il fait encore plus chaud. Et tu vas te cacher près d'un torrent qui s'appelle Kérit, qui est en face du Jourdain. Le Jourdain, il n'y a plus qu'un filet d'eau, mais il y a un petit torrent qui alimente le grand fleuve. Enfin, grand fleuve, c'est le principal de Palestine, mais toujours est-il que c'est quand même, malgré tout, une petite rivière. Mais il y a encore un petit torrent qui est alimenté en eau. Et Dieu va lui donner cet ordre, tu vas te cacher là. Élie pouvait dire, mais qu'est-ce que je vais y faire? Tous les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards meurent autour de moi, pourquoi tu me demandes d'aller dans ce lieu désert, à Kérit? Et Dieu lui dit, mais si c'est moi qui t'envoie, parce que tu es finalement, eh bien, dans ma volonté, je veux que tu la réalises, et si tu veux bien te prêter à réaliser ma volonté, alors à ce moment-là, auprès de ce minuscule torrent de Kérit, tu pourras y boire de l'eau, et j'ai même ordonné aux corbeaux, alors, de te nourrir là, pas ailleurs. Vous savez, je crois que quand on est à sa place, et ça c'est important, dans l'abondance ou dans la disette, là où Dieu nous veut, nous n'avons rien à craindre. Mais Il faut être là. Il faut être au bon endroit. On se souvient des histoires terribles de la Bible. Je pense à Abimélec et de sa femme Naomi, qui vont fuir le pays pour trouver le malheur dans le pays de Moab. C'est une autre histoire, livre de Ruth. Et je crois que c'est important parce que nous pouvons tous traverser des moments difficiles. Et c'est particulièrement dans les moments difficiles que nous avons besoin d'être à la bonne place, au bon endroit où Dieu nous veut. Parce qu'à défaut, s'il y a une quelconque famine, et on peut l'interpréter de différentes formes et de différentes sortes, alors à ce moment-là, c'est bien d'avoir Dieu à ses côtés, et d'être là où il y a encore de l'eau, là où il y a encore de la vie, là où il y a encore un souffle possible. Et nous voyons que Élie va bien comprendre ce qui lui est dit, alors il part, et il va faire l'expérience que selon la parole de l'Éternel, parce que Dieu ne ment pas, et Dieu ne se trompe jamais, alors il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Qu'est-ce que ça veut dire s'établir? Il n'y est pas allé quelques heures, il n'y est pas allé quelques jours. Il y est allé quelque temps, d'une manière indéterminée, il ne nous est pas dit combien, mais il est allé quelque temps, il s'est établi. Il devait se dire, mais qu'est-ce que je fais là? Je serais mieux de me renfermer dans une ville, je ne serais pas tout seul. Mais là, il était tout seul. La seule compagnie qu'il pouvait avoir, c'était les corbeaux qui venaient lui apporter, quelques nourritures. Je ne sais pas, mais toujours est-il que c'est écrit ainsi. Alors les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Donc, il survivait, alors que tout le monde, à cette époque en Israël, mourait, en raison de la calamité, en raison du fléau de la sécheresse, qui amenait forcément la famine. Il buvait de l'eau du torrent, il était vivant, et il était vivant parce que Dieu lui avait dit que à cet endroit-là, Dieu sera avec lui. Mais c'est assez déconcertant parce que, malgré son obéissance, malgré qu'il s'est maintenu là où il fallait, au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. Dieu aurait pu lui dire, maintenant j'ai une autre mission. Le torrent coulera sans toi, il y aura encore un petit peu d'eau, bon. Mais Élie est parti parce que finalement, il n'y avait plus d'eau. À un moment donné, alors il avait espéré, peut-être pendant des semaines et peut-être pendant des mois, qu'il pourrait rester là et qu'il serait encore là dans un climat de fraîcheur et qu'il pourrait encore... C'était quand même miraculeux de se faire nourrir par les corbeaux. Pas mal. Mais toujours est-il que c'est l'image qu'il faut retenir. C'est l'image de la providence. C'est l'image du surnaturel de Dieu qui vient au secours de ceux qui font confiance à celui qui est dans le ciel et qui fait les promesses, qui a fait des promesses et qui ne demande pas de les accomplir. Et à un moment donné, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'eau. Le torrent, c'est pour vous dire que ailleurs, c'est-à-dire dans toutes les régions, au-delà finalement de ce torrent, au-delà du Jourdain, dans tous les sens, la famine était encore beaucoup plus grande. Et il devait y avoir probablement des gens qui devaient mourir par dizaines et voire par milliers. Et là, au bout d'un certain temps, donc, le torrent fut à sec, parce qu'il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Mais oui, on pourrait peut-être se dire, mais Seigneur, pourquoi tu m'as sauvé un temps et maintenant je vais mourir, il n'y a plus d'eau. Oui, mais c'est pas connaître suffisamment Dieu, c'est pas connaître la manière dont Dieu fait les choses. Quelquefois, Dieu nous amène, il nous préserve, il nous fait marcher, il nous bénit, alors que il y a là une calamité autour de nous, on se dit, mais je suis privilégié, c'est formidable, moi, Dieu me fait grâce. Et puis, ça pourrait ressembler peut-être à une illusion naturelle. À un moment donné, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que l'on fait? On dit, mais Seigneur, tu m'abandonnes? Tu me laisses tomber? Pourtant, tu m'as dit que ça serait là. Et là, je constate que c'est comme tout le reste, c'est comme partout ailleurs, il n'y a plus d'eau. Et devant cette constatation, certainement que le prophète Élie devait être perplexe en se disant, mais pourquoi, Seigneur, tu m'as parlé? Pourquoi tout cela? Je ne comprends plus, puisque normalement, ça devrait encore être un endroit et un lieu de bénédiction et d'abondance et de providence. Au contraire, tout s'est asséché. Mais Dieu ne nous fait pas attendre. Enfin, il n'attend pas que nous soyons morts pour nous parler. Il nous parle de notre vivant. Et ça continue. Alors, parce que le torrent a été à sec, la parole de l'Éternel fut adressée à nouveau à Élie, dans ces termes. Oui. Dieu lui dit, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Vous aimez les déménagements ? Oui, c'est très agréable. Parce que Dieu ne, quelquefois nous déplace, mais pour une bonne raison. Élie pouvait dire, écoute, Seigneur, je suis là, moi je reste là. Ben, si tu restes là, Élie, tu vas mourir, parce qu'il n'y a plus rien à voir ici. Il n'y a plus rien à espérer ici. Mais vous avez remarqué que il y a un double plan là. Il y a un plan pour la survie du prophète Élie, quand Dieu lui dit, tu t'en vas, lève-toi, ne reste pas ici. Et nous allons aller à la découverte d'un plan qui va être au bénéfice de quelqu'un d'autre. Alors, ce quelqu'un d'autre, premièrement, c'est une ville étrangère à Israël, Sarepta, dans le pays de Tyré à Sidon, qui serait aujourd'hui le sud du Liban. Donc, c'est pas Israël. Nous avons affaire à une population qui, elle-même aussi, comme les Israélites, meurt de faim et de soif. Et il se trouve que c'est un pays païen. Ouais. Parce que Dieu s'occupe des siens, mais comme il est le créateur de tous les hommes, eh bien, il s'occupe de tous les hommes. Et vous savez, l'enfant de Dieu, le chrétien, le croyant, sait que Dieu existe. Alors, il y a peut-être des croyants qui ont oublié de remercier Dieu, non pas pour son existence, mais parce qu'il nous fait exister, et il nous fait vivre. Maintenant, il y a aussi tout un monde autour de nous qui ne croit pas du tout en Dieu. Pour certaines personnes, Dieu est une invention, une cogitation cérébrale, quelque chose qui peut peut-être servir d'opium au peuple. On l'a entendu dernièrement, dans tout le concert de ce qui se passe. Mais toujours est-il que Dieu a un double plan. Continuer à bénir son prophète, et puis apporter à des étrangers, à une étrangère en particulier, une bénédiction particulière. Mais il va y avoir finalement la démonstration de la foi. Premièrement, je vous dis que Élie, il a foi en Dieu et il obéit. Apparemment, il nous est pas dit qu'il a contesté quand Dieu lui a dit « lève-toi, pars et va-t'en ». Voilà. Donc, lui, c'est un homme qui a foi en Dieu. Il fait confiance à Dieu. Maintenant, qu'en sera-t-il de la réception de la promesse dans un pays étranger pour quelqu'un qui ne connaît rien de rien ? Alors, on va y aller. On va continuer. Et pour toute information complémentaire qui est destinée à Élie, Dieu lui dit, mais voici, à cet endroit-là, tu te trompes pas, c'est Sarepta. Il n'y a pas d'eau à Sarepta. Vous connaissez peut-être la région, Élie. Dieu lui dit, voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Élie aurait peut-être pu contester en disant, mais Seigneur, j'espère que c'est une veuve riche. Ah oui, que tu m'envoies dans une maison de riches, parce qu'il n'y a encore que des riches qui peuvent avoir encore quelques réserves d'huile, qui peuvent avoir encore quelques réserves d'eau, qui peuvent avoir encore quelques réserves de farine. Alors, mais c'était tout à fait le contraire. Parce que Dieu prend toujours, en quelque sorte, la contrepartie. Et quelquefois, les plus grands miracles de Dieu nous atteignent, ou nous parviennent, ou nous sont proposés sur des bases où il n'y a plus rien du tout. Parce que Dieu est Dieu. Parce que si Dieu se servait encore de ce qui existe, ça sera encore facile. On dirait, bah oui, mais c'est facile. Ouais. Mais là, il n'y a plus rien. Vous vous souvenez du miracle de la multiplication des pains ? Une foule immense, une foule affamée, une foule languissante, une foule de malheureux, plusieurs milliers. Et il y a ce soir-là, à la nuit tombante, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et pour manger, il n'y a que 5 pains et 3 poissons. C'est dérisoire. Et c'est ça justement le miracle de Dieu. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, et elles deviendront. Et ça, c'est véritablement, eh bien, les bases sur lesquelles nous pouvons faire confiance à Dieu, sans que nous voyions les choses, Sans que nous sachions les choses, Dieu nous dit « lève-toi et va ». C'est ça la foi. C'est marcher par la foi, tout simplement. Alors j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire, cette pauvre femme? Elle est déjà en peine. On l'a lu. Elle n'a plus de mari. Elle a un fils. Deux bouches à nourrir, il n'y a plus rien à manger. Et maintenant, Dieu a l'audace de dire à Élie, « Eh ben, tu vas rentrer dans cette maison. Il n'y aura pas seulement deux bouches à nourrir, il y en aura trois parce que tu te mettras à table avec elle. » Seigneur, je comprends plus. Je suis complètement désorienté, Seigneur. Tu me demandes de faire des choses, mais qui sont, humainement parlant, mais irraisonnables, qui sont incompréhensibles. Eh oui, mais justement, le problème et la question n'est pas de comprendre, c'est de faire confiance à Dieu. La foi dépasse la raison. Elle va au-delà de nos raisonnements et de tout ce que nous pouvons penser nous-mêmes. Alors il a obéi parce qu'il croit en Dieu. Élie se leva et il alla à Sarepta. Pour lui, c'est bon, ça va. Alors comme il arrivait à l'entrée de la ville, il rencontre cette femme. Il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Eh oui. Qu'est-ce qu'elle allait faire là? En sortant, elle traînait sa misère, elle attendait la mort avec son fils, et elle se disait, eh bien, pour me changer les idées, puisque nous allons mourir, allez, je vais ramasser un peu de bois, tout simplement. Qu'est-ce qu'elle voulait faire? Elle voulait faire tout simplement son dernier repas. Et elle avait besoin peut-être de cela pour, eh bien, préparer la dernière nourriture. Alors Élie va l'appeler et il va lui adresser ces mots d'une manière assez péremptoire quand on lit le texte comme il est présenté. Vous avez remarqué, va me chercher. Mais de quel droit il me commande cet homme? En plus, c'est un juif, c'est un étranger. Moi, je le connais pas. Je vois vraiment pas de quelle autorité et pourquoi il me demande ça. Va me chercher, je te prie. C'est déjà une formule un peu plus polie. Un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Le premier venu qui arrive. Parce qu'il y en avait d'autres qui avaient soif dans le village de Sarepta. Il y avait probablement des hommes, il y avait des enfants, il y avait d'autres familles, naturellement, qui avaient terriblement soif. Et voilà cet homme. On ne sait d'où il vient. Il se présente, et lui, il demande, sans vergogne, eh bien, tout simplement, un peu d'eau. Pour qu'il se prend. Pour qu'il se prend, celui-là. Mais vous savez, Élie ne l'a pas fait comme ça par hasard. C'était pas de la provocation. C'était pas parce qu'il avait terriblement soif, lui aussi, hein, que quelque part, eh bien, ça lui brûlait la gorge et qu'il avait un besoin impétueux de se désaltérer. C'est parce que Dieu lui avait dit. Et il avait été inspiré par Dieu pour dire ces paroles qui nous semblent tellement difficiles dans une circonstance aussi dramatique. Si vous imaginez le cliché, c'est terrible, hein, ce qui se passe, hein. Va me chercher un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Peut-être qu'elle aurait pu lui répondre, mais moi, ça fait 2 ou 3 jours que je ne bois pas. Alors, tu passeras après, tu attendras ton tour. Tu attendras qu'il pleuve. Ça sera peut-être dans 6 mois, dans 1 an. On a le temps de mourir avec tout ça. Jette ton pain à la surface des eaux, avec le temps tu le retrouveras. Vous avez remarqué? Avec le temps tu le retrouveras. Alors, on va voir que le temps fait son œuvre. Et comme nous l'avons vu déjà et partagé, il nous est dit dans un autre texte que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Ça, faut s'attendre à cela, parce que la foi, elle marche avec le temps. Pas le climat, hein. C'est pas la météo, hein. Mais elle marche avec le temps qui passe. Et il y a quelquefois des temps qui sont cruciaux. Il y a des temps qui sont des temps d'angoisse, des temps de détresse. Et il faut insérer la foi dans ces situations de souffrance, de douleur, de peine, parfois de désespoir, de noir complet. Mais Dieu fait toutes choses belles en son temps à celui qui sait l'attendre, à celui qui lui fait confiance. Et vous avez remarqué ce qu'elle fait? Et elle alla lui en chercher. Elle ne le connaît pas. Qu'est-ce qui a pu motiver cette femme? Qu'est-ce qui a pu lui donner ce pressentiment qu'elle n'avait pas affaire à un homme comme les autres, qui plus est un juif? Donc, quelque part, oh, je dirais pas un ennemi, mais des gens qu'on ne fréquente pas. Parce que les gens des pays aux alentours d'Israël n'aiment pas les juifs. Et les juifs, eh bien, leur rendent l'appareil. Ils aiment pas les Samaritains, ils aiment pas les, on pourrait dire aujourd'hui les Palestiniens, parce que il s'agit justement si on veut remettre un peu ça dans le contexte et le moderniser. Elle alla en chercher. Et puis voilà que Élie boit. Il va se désaltérer. Et puis il l'appelle à nouveau. Il lui dit, mais apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Alors là, ça pousse, hein. Ça pousse un peu loin. Hein. Ça va trop, trop loin. Élie, tu n'y es pas. Tu vois pas la misère de cette femme. Ne sais-tu pas qu'elle a un enfant qui est en train de mourir, là, peut-être, dans la maison, qu'il lui reste quelques heures à vivre parce qu'il n'a ni bu, lui. Il n'a pas mangé non plus. Et toi, tu te permets de demander encore, eh bien, qu'elle te nourrisse. Alors elle va répondre ces paroles. Et elle va répondre de la bonne manière, même si quelquefois ça nous interpelle. Vous savez comment elle va répondre? Elle va commencer par le nom de Dieu. Qu'est-ce qu'il lui avait appris? Qu'il y avait un Dieu dans le ciel, qui était le Dieu des Juifs, le Dieu d'Israël. Qu'est-ce qu'il lui avait appris? Oh, je ne sais pas comment ça a pu lui venir, mais je pense que Dieu prépare les cœurs des hommes et des femmes. Oui. Il y a des gens qui se sont jamais souciés de Dieu et qui auraient pu dire à Élie, dis donc, hein, tu passes ton chemin, tu disparais de ma vue parce que tu n'auras ni eau et tu n'auras ni pain. Parce que c'est comme ça. On ne te connaît pas. Tu n'es pas du pays. Tout simplement. Alors va passer ta faim ailleurs. Et elle a répondu cette parole. L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Elle reconnaît en Élie un homme de foi. Il a la foi. Et vous savez, c'est bon de s'approcher des gens de foi. C'est bon d'avoir en compagnie, eh bien, des hommes qui croient en Dieu. Dans un monde où on croit de moins en moins en Dieu. Et ça, c'est certainement pas un gage de bénédiction et d'abondance. On va le voir certainement dans les temps qui viennent. Ouais. Alors, elle répond de cette parole. Ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Voilà, elle fait l'inventaire de ce qui lui reste. Regarde. Mais c'est insignifiant. Qu'est-ce que tu veux que l'on fasse avec ça? Mais elle le dit quand même. Elle est en train de faire le comptage de ce qui lui reste. Eh bien, vous savez, il y a un principe dans la Bible que je voudrais vous rappeler. Vous le savez, Dieu fait avec les restes. Et croyez bien que avec Dieu, il y a de bons restes. Vous savez, les morceaux de, pain qui restaient, 12 paniers après la multiplication des pains. Le salut des Juifs, quand Dieu dit, eh bien, je ferai ressortir un peuple de ce reste. C'est pas avec beaucoup que Dieu fait, c'est avec des restes et des petits restes qui deviennent finalement, eh bien, la profusion et l'abondance inimaginable. Mais elle le dit. Alors elle répond, voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Là, elle est peut-être pas tout à fait d'accord pour que ce soit Élie qui passe en premier, hein. Vous avez remarqué? Nous mangerons et après quoi nous mourrons. Alors pourquoi manger puisqu'on va mourir? On fait ça tous les jours depuis des années, parce qu'il faut manger pour vivre. Mais néanmoins, on s'aperçoit que elle laisse passer un message. Mais c'est un message qui est peut-être quelquefois, à la lecture de ce texte, ambigu. Nous mangerons et nous mourrons. Élie lui dit, en réponse, et il parle le langage de Jésus déjà, Élie, hein. Il lui dit tout ça, ne crains pas. « Rentre, fais comme tu as dit. Mais seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras et tu en feras ensuite pour ton fils et pour toi. » Voilà, les choses sont déjà préparées, elles sont déjà en route. Maintenant, que va faire cette femme? Elle a, à un moment donné, réaction toute naturelle de se servir en premier, c'est normal? Ouais. De prendre, moi et mon fils. Il me reste que ceci, et puis après, eh bien, on va mourir parce que il n'y a pas trop d'espoir dans la situation dans laquelle nous sommes. Autant pour nous que pour toi, il n'y a pas d'espoir. Mais il faut toujours une parole qui arrive, et une parole qui va ranimer la foi, qui va ranimer l'espérance. Parce que après le mot mort ou la pensée de mort, nous mourrons, eh bien, Élie va apporter finalement, eh bien, l'espoir de vivre quand même. Parce qu'il lui dit, n'aie pas peur. Vous savez que la peur, ça fait mourir, et que la foi, ça fait vivre. Ouais. D'ailleurs, on le dit bien dans l'expression, en ce qui nous concerne ou en ce qui concerne les autres, je meurs de peur, ou il meurt ou elle meurt de peur. Bon, ça n'a pas été inventé comme ça au hasard, hein. Même c'est passé dans le langage courant des hommes. Alors, il va la rassurer. C'est les paroles de Jésus, ne crains point. Pourquoi tu aurais peur? Parce que finalement, celui qui est le créateur de la vie, celui qui est au ciel, et celui qui donne tout ce qui accompagne la vie et son entretien, mais il est encore capable. Même s'il n'y a plus rien autour de toi, il est capable de te donner, là, dans ces moments cruciaux, dans ces moments d'une extrême difficulté, dans le fléau qui te frappe, hein, eh bien, il est capable de faire ressurgir de ce petit reste, de ce petit lumignon, de cette petite flamme. Eh bien, il est capable de faire ressurgir la vie. Alors, n'aie pas peur. Ça, c'est une parole pour nous ce soir. N'aie pas peur. Lorsque nous sommes confrontés avec des extrémités, Dieu nous dit, n'aie pas peur. Dieu est là où il n'est pas là. Mais comme toi, tu es au bon endroit, tu étais à Kérit, c'était au bon endroit, tu es maintenant à Sarepta, c'est quand même, malgré tout ce que tu peux penser, c'est encore le bon endroit. Et ce soir, on est au bon endroit, permettez-moi de le dire. En tous les cas, nous nous nourrissons de sa parole, parce que c'est une nourriture. Et cette nourriture, elle n'est pas faite pour nos corps seulement, elle est faite pour notre âme et notre esprit. Et elle nous fait vivre, cette parole. Alors, ne crains point, tu vas rentrer chez toi, ma brave femme. Et tu vas préparer, finalement, un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Tu me l'apporteras. Elle avait dit, moi et mon fils. Et la réponse qu'il lui a donnée, tu me fais passer en premier, moi l'inconnu, moi le prophète d'Israël, tu me connais pas, mais tu me fais passer en premier et tu ne le regretteras pas. Qu'est-ce que nous faisons très souvent dans notre vie? Nous nous servons d'abord, et puis nous laissons le reste à Dieu si le cas échéant, il reste quelque chose. La pauvre veuve dont je vous parlais dans l'évangile de Luc, elle a rien gardé pour elle, elle a fait la part totale à Dieu. Et c'est comme ça qu'elle a beaucoup reçu. Et à chaque fois que nous faisons cette démarche et que nous donnons la priorité au Seigneur, mais c'est un gage d'abondance et c'est un gage de bénédiction dans notre vie. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Hein. On le sait, ça. Hein. Mais le savoir et le vivre et le mettre en pratique, hein. Seigneur, aide-nous. Hein. On en a besoin dans notre monde où il y a tant d'égoïsme, tant de retenue, tant de choses pour nous, pour moi. Alors, tu me l'apporteras et tu feras ensuite pour toi et ton fils. Tu veux me dire, Élie, qu'à ce moment-là, si tu manges en premier, il y en aura encore pour nous deux, puisque je pensais qu'il n'y en avait pour qu'une personne. On le dit quelquefois lorsque des gens arrivent à l'improviste chez nous et qu'on est trois à table, puis on lui dit, écoute, t'arrives, s'il y en a pour trois, il y en a pour quatre. Hein. c'est ça avec le Seigneur, hein. En tous les cas, quand il y en a pour un, il y en a pour 10 000 avec Dieu. Comprenez la proportion, hein, c'est terrible. Hein, parce que Dieu est riche. Parce que Dieu est infini. Parce que Dieu est capable de faire des choses extraordinaires qui dépassent notre manière de compter et de concevoir. Alors, la suite, et je termine sur cela, parce que c'est quand même la chose la plus belle. Parce que Dieu répond. Il répond à Élie. Et il va répondre à cette femme. Et il va lui dire, écoute bien. Pauvre veuve de Sarepta, toi qui te lamentes, toi qui es au bout, prête à mourir. Enfin, tu crois que tu vas mourir, mais tu vas pas mourir. Alors, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la surface de la terre. Tu vois le peu que tu as dans ton fond de pot. Cette huile, quelques gouttes. Et encore, si on essore bien, il en restera peut-être 2 ou 3 gouttes de plus. C'est difficile d'essorer une cruche. Mais toujours est-il qu'on va aller au fond. On va aller chercher jusqu'à la dernière possibilité. Eh bien, moi, je te le dis au nom de Dieu, parce que tu m'as reçu. Parce que tu m'as fait confiance. Moi, je fais confiance à celui qui m'a dit de venir chez toi. Et en venant chez toi, Dieu m'a béni. Et parce que Dieu m'a béni, tu seras béni, parce que tu m'as accueilli, tu m'as donné sans restriction ce que j'avais besoin. Tu as cru à mes paroles, tu as fait donc confiance à Dieu. Remarquez, le message de l'évangile, il se transmet de la même manière aujourd'hui. Hein. Dieu ne nous a pas parlé directement. Hein. Il nous a parlé par des hommes et des femmes, prédicateurs, témoins, de Jésus-Christ, disciple de Jésus-Christ. Et si vous êtes venu ici ou si vous êtes venu dans une église où l'évangile est prêché, non pas parce que vous avez une révélation de Dieu, c'est que vous avez fait confiance à la première personne qui vous a parlé de Jésus. Et vous lui avez fait confiance. Et ensuite, vous avez découvert que la personne qui vous avait parlé de Jésus, eh bien, elle avait dit vrai, vous avez fait les mêmes expériences. C'est la transmission, vous comprenez? C'est comme ça que ça marche. Faut faire confiance à ce que Dieu envoie. Alors l'huile, la farine, demeurera, se multipliera, augmentera, sera abondante jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le sol. Vous savez combien ça durait la sécheresse en Israël? Vous vous souvenez de ce qui est dit? 3 ans et demi. Wow! Imaginez-vous, nous, quand il tombe pas d'eau pendant 1 mois et demi, c'est l'affolement. Hein. Mais là, c'est tombé. Hein. Ah oui, 3 ans et demi, ça durait. Alors, il a dû y en avoir des morts. Il a dû y en avoir de la détresse. Ça a dû être quelque chose de catastrophique, d'épouvantable, cette famine en ce temps d'Élie, en Palestine. Alors, jusqu'au jour, c'est-à-dire jusqu'à un temps indéterminé, parce que là, il ne savait pas jusqu'à quand que ça allait durer. Et ça durait des mois et des mois et des mois. Et dans tous ces mois, eh bien, la maison de la veuve de Sarepta, il y avait de la nourriture. En raison de la démarche et de la foi particulièrement. Alors elle est allée et elle a fait selon la parole d'Élie. C'est-à-dire qu'elle a préparé un gâteau. Elle l'a donné d'abord à Élie. Et puis ensuite, elle a mangé elle et son fils. Elle devait être certainement très étonnée. C'était certainement le plus beau et le plus merveilleux de tous les repas qu'elle n'avait jamais fait. Parce que c'était un repas miraculeux. Et pendant longtemps, je souligne le mot, pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. Quand Dieu envoie, il pourvoit, d'accord? Oui, si Dieu nous demande quelque chose, c'est qu'il ne va pas nous laisser tomber en route. Hein. Vous voyez que quand Dieu a fait sortir les Hébreux du pays d'Égypte, il les a abandonnés dans le désert, un désert affreux, la Bible nous dit que c'était un désert affreux, un désert épouvantable, horrible, eh bien Dieu leur a donné la manne, il aura donné l'eau du rocher, il aura donné tout ce dont il avait besoin. Et pendant combien de temps? Pas 3 ans et demi, pendant 38 ans, enfin 40 avec les 2 années de préparation. 40 ans, c'est le chiffre de l'épreuve. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Ça passe par Élie. Ça passe par un homme qui croit, un homme qui a confiance en Dieu, un homme qui est capable de vouer toute sa vie complète et totale, de risquer tout, parce qu'il croit avec fermeté que ce que Dieu dit, eh bien, il l'accomplit. Et il ne manquera pas. Dieu ne ment pas. Et c'est ce qui s'est passé. Est-ce que nous aurions des craintes de manquer de quelque chose? De manquer? C'est possible. On vit dans des pays d'abondance. Cela va-t-il durer? Je ne sais pas. Mais vous savez, peut-être que avons-nous besoin, après toutes ces décennies de gaspillage et de poubelles remplies jusqu'à ras-bord, c'est triste, hein. Vous savez, les gens qui vivaient pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils auraient bien voulu avoir le reste. Hein. Ah, ils n'étaient pas en cure d'amaigrissement à l'époque. Hein. Ça se faisait naturellement, hein. Excusez-moi de le dire, mais c'est comme ça. Hein. Terrible, hein. Et après, quand on voit tout ce qui a pu être gâché alors que une grande partie du monde meurt de faim encore aujourd'hui. Vous allez me dire, on peut pas, ça c'est sûr, pas tout faire. Mais jeter de la nourriture, piétiner, écraser, incendier les surplus, parce que c'est ce qui se passe, hein, arroser avec de l'essence ou avec toutes sortes de choses, je crois que ça ne plaît pas à Dieu. Bon, ça c'est un avis personnel, mais c'est pas le fait de la chose, c'est le fait que quelque part, eh bien, on ne sait pas reconnaître ce que nous avons. Et quand on n'a plus, là, on sait ce qu'on a perdu, hein, quand on n'a plus. Mais toujours est-il que quand on a béni son Dieu, remercions le Seigneur. Puis quand on n'a plus, et si un jour on n'a plus, eh bien, il nous reste encore un immense secours, un merveilleux secours. Vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle la foi. Et si nous repartons du début, jette ton pain à la surface des eaux, et avec le temps, tu le retrouveras. Que Dieu nous bénisse ce soir, que Dieu nous donne sa grâce, et qu'il augmente notre foi. Ça, c'est l'essentiel. Dieu se plaît à voir des hommes et des femmes qui lui font confiance. Et mon juste vivra par la foi, nous vivons par la foi. Et c'est comme ça que nous verrons encore le miracle et des choses extraordinaires dans notre existence. On va prier quelques instants, si vous voulez bien. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que ce sont des belles histoires. La Bible, c'est un livre de belles histoires, mais ce ne sont pas seulement des histoires-histoires. Ce sont des histoires vraies. Ce sont des paroles vivantes. Elles étaient vivantes hier. Elles sont vivantes encore aujourd'hui. Et demain, devant cette incertitude de demain, ces paroles resteront encore vivantes pour tous ceux qui les prennent, tous ceux qui les saisissent, tous ceux qui les vivent. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous voulons tout simplement, Père éternel, te dire merci, Seigneur, parce que nous croyons que la plus belle des positions, c'est d'être là où tu nous veux, que ce soit à Kérit, que ce soit à Sarepta, peu importe. C'est d'être dans le plan de Dieu, c'est d'être, Seigneur, au bon endroit. Eh bien, Seigneur, nous croyons que lorsque nous quittons, eh bien, en effet, Père éternel, nos positions, et que nous partons sans toi, c'est vrai, Seigneur, que ça peut être grandement préjudiciable. Mais lorsque c'est toi qui nous conduis et qui nous dirige, eh bien, à ce moment-là, nous ne manquerons jamais de pain. Nous ne manquerons jamais, Seigneur, de tes bienfaits, qui se renouvelleront chaque matin, parce que nous avons mis notre confiance en toi. Seigneur, tu bénis nos amis, tu bénis mes amis, tu visites ceux et celles qui peut-être ce soir en particulier ont besoin, Seigneur, en effet d'entendre ces vieilles paroles, mais qui sont des paroles nouvelles, des paroles d'actualité, des paroles d'aujourd'hui, parce que nous savons, Seigneur, que en effet le principe de la foi, le principe de la bénédiction dans la foi, le principe de l'abondance par la foi, eh bien ne change jamais, Seigneur. Parce que ta parole est éternelle, parce que ta parole est une permanence, alors nous pouvons dire, Seigneur, oui, je veux vraiment jeter mon pain à la surface des eaux, parce que je sais qu'à un moment ou un autre, je le retrouverai, je pourrai le partager avec d'autres qui ont faim et soif, qui ont besoin, Seigneur. Eh bien, c'est ce que nous avons fait ce soir. Si le pain est ta parole, nous avons partagé ta parole, et chacun d'entre nous, nous pouvons partager à notre tour la parole. Parce qu'il y a tant de misère et tant de détresse. Il y a tant de fèves, de Sarepta, Seigneur, aux prises avec, les vicissitudes de l'existence et qui dépérissent. Merci, Seigneur. Merci dans le nom de Jésus. Bénis-nous, Seigneur. Bénis tous ceux qui entendent ta parole, ceux qui l'entendront demain, Seigneur. Et merci, Jésus. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.